Décryptage.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Décryptage ce soir consacré à la Libye. Ce pays en proie à un conflit qui semble sans fin, ou plutôt qui semblait sans fin, car vous le verrez, plusieurs éléments récents peuvent laisser espérer une solution politique en Libye. Mais la tâche s'annonce, il faut le dire, délicate, tant les ramifications de ce conflit sont nombreuses. Deux camps qui se disputent le pouvoir depuis plus de 5 ans, ajoutez à cela l'implication de deux grandes puissances étrangères, la Turquie et la Russie, le soutien indirect d'autres États et l'ONU dans tout cela qui peine à faire respecter le droit. Voilà en quelques mots les ingrédients de ce conflit. Quelle issue alors que se déroulait aujourd'hui lundi une réunion sur le sujet en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies? Eh bien soyez les bienvenus dans le Décryptage. Et notre invité ce soir, il est à nos côtés en studio, Jalal Archaoui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'Institut des Relations Internationales de Clingendelo, aux Pays-Bas. Première question, brièvement, pour qu'on comprenne bien le contexte. Est-ce que vous pouvez nous dessiner le paysage politique aujourd'hui en Libye?
Oui, je vais commencer par peut-être l'événement le plus marquant de ces dernières années, c'est la décision du fameux maréchal Haftar. C'est un maréchal qui ne représente pas une entité véritablement étatique, c'est plus quelqu'un qui se comporte comme un rebelle, qui a décidé, après avoir mené une longue campagne contre les islamistes de Benghazi, de lancer en avril 2019 une offensive sur la capitale. La capitale étant une zone urbaine de 1,2 million d'habitants. Et c'était clair que là, ce qu'on reprochait, au moins en théorie, à la Tripolitaine, ou en tout cas à la zone de Tripoli, c'est qu'il y avait une tolérance par rapport au courant, disons, islamiste modéré et moins modéré. Donc c'est cette idée d'avoir un arrangement pluraliste dans la capitale qui est considéré comme intolérable par le maréchal Haftar, mais surtout par les États étrangers qui le soutiennent.
Et qui a donc motivé cette offensive, oui, de oui, la part du maréchal Haftar sur Tripoli, c'est donc il y a un an et demi.
Oui, voilà. Et pour lui, c'était surtout l'opportunité de devenir le chef d'État. Mmh. Ou en tout cas de pouvoir organiser comme ça l'émergence d'un gouvernement qu'il contrôlerait complètement. Et rien de tout cela n'a marché. Et une des raisons pour lesquelles ça s'est effondré, c'est évidemment l'intervention de la Turquie du côté du gouvernement internationalement reconnu de Tripoli.
Parce que c'est ça qu'il fallait dire. Ce qu'il faut dire, c'est que pendant ce temps-là, parallèlement à cette avancée du maréchal Haftar à Tripoli, il y a des autorités à Tripoli, c'est le gouvernement d'union nationale qui est reconnu par l'ONU.
Voilà, oui, c'est ce qui a été attaqué depuis le début, hein. C'est pour ça que je l'ai présenté comme un rebelle. Toute cette belle aventure s'est effondrée par la force le 5 juin de cette année. Et depuis, il n'y a pas beaucoup d'échanges de feu. Donc quand on parle de cesser le feu, moi je me méfie un petit peu parce que ça donne l'impression à nos auditeurs qu'il y a une guerre aussi intense qu'avant juin, ce qui n'est pas le cas.
Parce qu'officiellement le cesser le feu a été annoncé cet été,
oui,
entre les factions rivales, donc les autorités de Tripoli, gouvernement d'union nationale, mm-hmm, et les forces du maréchal Haftar.
Et d'ailleurs justement, il y a maintenant de plus en plus des figures de l'Est qui ne sont pas le maréchal Haftar ni ses fils. Donc ça montre bien que le personnage est en difficulté, il a moins de crédibilité puisqu'il a associé tout son projet à un acte militaire qui a été soldé par un échec cinglant. Et donc voilà, il c'est un petit peu, voilà, tout le monde se regarde en chien de faïence, et l'ONU en ce moment essaye de bâtir un nouveau gouvernement d'unité nationale, une espèce de gouvernement d'unité nationale 2.0, qui pourrait maintenir le pays en un seul morceau, même si effectivement il y a maintenant clairement une sphère d'influence à l'ouest qui est dominée par la Turquie et une sphère d'influence à l'est qui est dominée par l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et la Russie.
Donc eux soutiennent le maréchal Haftar et la Turquie soutient le gouvernement d'union nationale. C'est ça un petit peu le décor?
C'est ça, oui, absolument. Oui.
Les spécialistes qualifient parfois la Libye de conflit de basse intensité. C'est quoi la réalité des combats en Libye? Quelles sont les pertes? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir affaire à un conflit qui dure depuis des années, mais qui est un conflit silencieux par rapport aux pertes en Syrie, par exemple.
Voilà, ou au Yémen, effectivement. Mmh. C'est vrai que quand on regarde la facilité avec laquelle les êtres humains meurent en Syrie et au Yémen, on comprend qu'on prenne pas au sérieux la Libye, parce que c'est, bon, par exemple, la guerre de 14 mois que j'évoquais tout à l'heure, c'était grosso modo 15, maximum 25 morts par jour quand ça allait vraiment très mal, alors que c'est facilement 150 en Syrie ou quelque chose comme ça au Yémen. Cela dit, je trouve que c'est pas un bon argument, parce que c'est quand même, d'un point de vue stratégique, un paysage qui change constamment, de manière fondamentale, aux portes de l'Europe. Et je trouve que les Européens, pour le coup, c'est vraiment dans leur voisinage, et tolérer un conflit qui tue comme ça aussi facilement, c'est quand même 8000 morts, dont plus de 10% de civile, cette fameuse guerre complètement inutile du maréchal Haftar, par exemple.
Le parallèle qu'on peut faire, en tout cas, avec la Syrie, outre justement le bilan, c'est l'implication des forces étrangères. Donc Turquie et Russie, qui s'opposent dans le conflit libyen, sont également impliquées dans le conflit syrien.
Oui, alors c'est un parallèle auquel je résiste toujours parce que il permet d'estomper le rôle d'un État qui est extrêmement virulent, extrêmement actif, qui mène des actions tout à fait illégales, y compris des crimes de guerre. C'est les Émirats Arabes Unis, un grand ami de Paris d'ailleurs, et qui n'est pas très actif en Syrie. Donc à partir du moment où on pense qu'il y a un parallèle entre les deux, eh bien ça passe sous le tapis, et ça m'embête beaucoup, parce que analytiquement on ne peut plus comprendre la Libye si on oublie le rôle tout à fait particulier et vraiment très têtu d'Abu Dhabi.
Alors, on a évoqué le rôle de l'Europe. Vous avez dit que l'Europe en fait pas assez. On va écouter un premier extrait sonore. C'est le chef de l'État français, Emmanuel Macron, justement à propos de l'implication de l'Europe dans ce conflit libyen. Écoutez le président français qui s'exprimait le 13 juillet dernier à propos du conflit libyen. C'était lors du discours aux armées.
Il n'y a pas de solution militaire en Libye. Seule une solution politique à laquelle nous avons constamment contribué est possible. La zone méditerranée sera le défi des prochaines années, tant les facteurs de crise qui s'y conjuguent sont nombreux. Un jeu de nouvelles puissances, si nous, l'Europe, a à y redéfinir son rôle et sa place. Ce qui suppose de savoir réinterroger la cohérence de nos grandes alliances. Sur ce point, je me suis déjà exprimé avec clarté, je crois. Mais ce qui suppose, pour nous, Européens, d'être clair et exigeant. La Méditerranée ne peut construire une paix durable sans nous.
Alors, Jalal Archaoui, qui a les clés aujourd'hui de la résolution du conflit en Libye? Est-ce que ce sont les États qui sont impliqués? On a évoqué la Turquie et la Russie. Ou est-ce que l'Europe, comme le dit le président français, peut jouer un rôle en Libye? Ou est-ce que dans ce conflit, elle est totalement éclipsée?
L'Europe ne se comporte pas comme une entité. Il n'y a pas suffisamment de cohésion, il n'y a pas de suffisamment de solidarité parmi les États membres de l'Union européenne. Notamment, il y a une particularité française qui consiste quand même à être toujours silencieux par rapport aux actes illégaux des Émirats Arabes Unis, mais aussi de la Russie, faut le dire, pendant une longue partie du conflit. Et de l'autre côté, il y a des écoles qui se disent un petit peu différentes de celles de Paris, si différentes que ça, mais c'est quand même des différences qui importent, par exemple par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne essaye d'être un peu plus neutre, de moins soutenir les agressions militaires du maréchal Haftar. Donc ces petites différences-là suffisent pour diminuer la solidarité qui est nécessaire pour que l'Union européenne puisse agir avec toute la masse que cela représente sur le plan géopolitique. Géopolitiquement, l'Union européenne n'est qu'une une entité économique, mais pas tellement en termes de défense ou en termes d'affaires militaires.
L'Allemagne qui organisait aujourd'hui en marge de l'Assemblée générale de l'ONU une conférence en fait justement consacrée à la Libye, et ce soir le gouvernement allemand se dit prudemment optimiste sur les chances de parvenir à une résolution politique du conflit en Libye. C'est le thème de notre décryptage ce soir. Vous en pensez quoi, vous?
Il est clair qu'il y a un processus qui est en cours depuis l'accalmie dont je vous ai parlé. Il y a un alignement qui a émergé au mois d'août. Et ça c'est très remarquable, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est l'Égypte qui ne veut pas aller en guerre. L'Égypte a déclaré une ligne rouge, a déclaré son intention, elle a fait voter son parlement qui a approuvé donc une intervention militaire en Libye, mais elle ne le souhaite pas.
Elle a rétro-pédalé clairement.
Il s'agit pas. C'est un petit peu humiliant de dire ça. Je pense qu'elle a fait preuve quand même d'une bonne mesure. Elle a fait peur à la Turquie quand il le fallait, et puis elle a reculé devant un geste qui serait trop irréversible et qui emmènerait ses soldats dans la gueule du loup pour des raisons qu'elle juge encore non nécessaires à ce stade du conflit. Donc à partir du moment où l'Égypte a été en faveur de ce processus de l'ONU et qu'en même temps la Turquie, qui est son adversaire, est aussi en faveur, et on sait, en tout cas je peux vous le dire, la Russie est également en faveur de tout cela. Et bien finalement, avec la médiation des Allemands, un travail de diplomatie de la navette de la part des Américains, qui aimeraient bien annoncer une petite victoire diplomatique avant les élections du 3 novembre, bien finalement tout cela a donné les ingrédients pour l'ONU d'avancer. Et alors ce qu'elle va faire maintenant, c'est un mois d'octobre très très actif, très riche, en annonces. Alors on ne sait pas si ce sont des annonces qui vont être peut-être un petit peu ambitieuses, suffisamment réalistes pour que la mayonnaise prenne, ou peut-être trop ambitieuse, ces annonces, qui iraient trop loin et qui feraient peur à certains acteurs sur le terrain et qui déclencheraient donc comme ça, d'une manière inadvertante, des contre-réactions et voire des conflits ou un réveil de la guerre d'avant juin. Donc tout ça est possible, tous ces risques sont possibles.
En tout cas, ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, la résolution du conflit libyen, elle se passe clairement en dehors de la Libye.
Oui. Oui, c'est vrai que c'est là le rôle des.
Parce qu'on a commencé par les deux autorités, voilà, qui régissent la Libye aujourd'hui, entre le gouvernement d'Union nationale à l'ouest et les forces du maréchal Haftar à l'est. Quel rôle elles ont justement dans cette recherche d'une résolution du conflit?
Le rôle des États étrangers est absolument gigantesque parce qu'on ne peut plus aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, mener une offensive qui soit autre que locale ou micro-locale, qui pourrait suffire. Si des acteurs comme ça décident de gâcher le processus diplomatique, c'est quand même grave d'avoir un conflit local. Mais de grosses offensives comme celle des fameux 14 mois dont je parlais tout à l'heure, ce n'est pas possible sans les États étrangers. Et maintenant, les acteurs libyens le savent.
En sous-main, donc la décision, évidemment, des pays étrangers derrière les décisions des autorités. Et on va s'arrêter sur une décision importante, vous allez me dire si elle a été finalement révélatrice d'une évolution dans le conflit. C'était le mois dernier quand le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, a annoncé son intention de démissionner. Écoutez plutôt, c'était précisément le 16 septembre dernier.
J'annonce à tous mon souhait sincère de céder mes fonctions à un prochain pouvoir exécutif avant fin octobre, au plus tard. Il est nécessaire de mentionner que le gouvernement n'a pas travaillé dans des conditions normales, ou même partiellement normales, depuis sa formation. Il a fait l'objet de complots à la fois internes et externes. Beaucoup ont essayé de nous bloquer de manière évidente et récurrente.
Jalal Harchaoui, l'annonce de la démission de Fayez al-Sarraj, on le rappelle, un chef du gouvernement d'Union nationale reconnu par l'ONU. Est-ce que ça va dans le sens justement de cette résolution du conflit en Libye?
Tout d'abord, quand un politicien libyen annonce sa démission, il ne faut pas forcément le prendre d'une manière littérale.
Il est annoncé pour la fin octobre.
Voilà, donc pourquoi est-ce qu'il a annoncé aussi longtemps à l'avance? On peut se poser la question. Donc moi, je le croirai que quand je le verrai. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une figure qui est, d'une manière reconnue par tous, qui n'est pas pro-Turquie, qui n'est pas islamiste. Et ça, c'est extrêmement utile pour la Turquie. Donc le premier embêté, si je puis dire, ce serait Ankara, s'il devait partir. Donc aujourd'hui, il a beaucoup de valeur. La Turquie le supplie presque de rester. Je pense qu'il va rester, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement le paysage de la Tripolitaine, qui est censé être uniformément pro-Turquie, il y a des factions maintenant qui commencent à se dessiner, qui ne sont pas très enthousiastes pour la présence turque. Ça, c'est très intéressant.
Il y a eu un autre événement 2 jours après l'annonce de la démission de Fayez al-Sarraj, c'est la levée sous condition du blocus des sites pétroliers qui durait depuis 8 mois. Alors cette fois, c'est le maréchal Haftar qui a fait cette annonce. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux décisions? Est-ce que ça va dans l'idée de lâcher du lest à chaque fois?
Oui, il y a une grande pression des États étrangers. Comme je le disais, il y a un alignement en fait des astres étrangers. Il y a la Russie qui en a marre un petit peu de ce blocus pétrolier. L'économie ne peut pas rester étranglée à 100% comme ça indéfiniment. Donc il y a plusieurs pressions qui finalement sont concurrentes. Et ça, c'est ce qui permet de comprendre les petites évolutions. Justement, le fameux blocus a été levé que d'une manière partielle, mais quand même, on est passé de moins de 100 000 barils à quasiment 300 000 en 2 semaines. Moi, je pense qu'on va atteindre 600 000 d'ici 2-3 semaines. Donc finalement, quand on voit cet accord très fragile entre plusieurs États, eh bien, ce sont quand même des États qui ont maintenant des moyens coercitifs, même vis-à-vis des acteurs libyens qui sont censés soutenir. Et ils arrivent à exercer une pression.
Toutes ces décisions, en tout cas, les deux qu'on a évoquées là, sont clairement motivées par les puissances étrangères, donc Turquie et Russie.
Oui, je pense que la décision
de Sarraj est plutôt contre la Turquie. Ils sont que des marionnettes, un petit peu, les autorités libyennes.
Non, au contraire. Non, ce que je mettais en exergue par rapport à Sarraj, c'est qu'il était en train de dire à la Turquie, fais attention, je peux partir. Donc j'ai beaucoup de valeur et fais attention à moi. Et j'aimerais travailler dans de meilleures conditions. Et j'aimerais avoir plus un mot à dire, si vous voulez.
Mais finalement, c'est Ankara qui a le final cut, qui a la décision finale sur
je trouve que la Turquie se débrouille très mal. Elle a réussi une bataille, mais elle est très très loin de gagner la guerre. Depuis qu'il y a la paix, elle est très bien embêtée parce que finalement, le seul domaine dans lequel lequel la Turquie a brillé, c'est le domaine strictement militaire. Tout ce qui est économique, diplomatique, politique, etc., elle est en train de pédaler dans le couscous.
Alors c'est une crise politique, sécuritaire, on l'a dit, mais également sociale. Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui en Libye après plus de 50 guerres et puis surtout 9 ans après la chute de Mouammar Kadhafi?
Ce qui est intéressant, c'est que depuis que la violence n'est plus le premier souci des habitants de la Tripolitaine, je dirais à travers tout le pays, le plus grand souci aujourd'hui, c'est la détérioration tellement visible, tellement drastique des conditions de vie quotidienne. Donc c'est un pays producteur d'énergie qui ne peut pas produire son électricité, qui a son industrie du pétrole et son gaz naturel qui est bloqué. Il y a une pénurie de billets de banque, dinars. Hein, on a de l'argent dans le compte en banque, mais on ne peut pas le retirer parce que les morceaux de papier sont en pénurie. Il y a des paiements qui ne sont plus payés en raison du blocus du maréchal Haftar. Il y a aussi une pandémie que les Libyens commencent à vivre de plein fouet depuis quelques semaines et qui est très mal gérée des deux côtés de la ligne de fracture principale, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Il y a une mauvaise mobilisation, une espèce d'incompétence technocratique qui fait que ça se passe mal. Les chiffres sont de plus en plus grands et inquiétants. Donc voilà, c'est ça qui préoccupe les Libyens. Ce sont des préoccupations socio-économiques et sanitaires et qui ne sont pas politiques, en fait.
Et les Libyens commencent à dire qu'ils sont préoccupés. Il y a eu, ces derniers mois, des mobilisations importantes, des manifestations dans plusieurs villes.
Dans plusieurs villes, oui.
Est-ce que ça peut jouer un rôle, la rue?
Pour l'instant, la rue ne fait pas peur aux élites libyennes. Pour l'instant, les élites libyennes pensent toujours pouvoir instrumentaliser ces protestations, les tourner à leur profit, les exploiter, les manipuler. C'est malheureusement pas suffisamment grand pour terroriser les élites qui sont finalement encore très confortables dans leur rôle.
On peut pas imaginer des chutes à l'instar, par exemple, du printemps arabe qu'il y a pu y avoir.
C'est possible, c'est toujours possible, mais pour l'instant, c'est très éparpillé à travers le territoire. Il y a des incidents à l'est, il y a des incidents dans le sud, et aussi évidemment, on a eu ça au mois d'août et au mois de septembre dans la Tripolitaine et un petit peu à côté. Pour l'instant, les gens sont surtout fatigués.
On a dit, on va vers, semble-t-il, un début possible de résolution du conflit. En tout cas, l'heure est à l'accalmie. Les planètes sont alignées, finalement, entre les puissances étrangères qui sont en sous-main de ce conflit. À la fin du mois de septembre, il y a eu une réunion en Suisse, à Montreux, d'où il est ressorti l'idée d'organiser des élections présidentielles et parlementaires d'ici à 18 mois en Libye. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est possible? C'est un objectif qui doit être à nouveau évoqué le mois prochain, lors d'une nouvelle réunion à Genève, en Suisse.
Bon, d'abord, il faut combler les 18 mois. Et c'est pour ça que j'ai parlé du gouvernement d'unité nationale qui risque d'être annoncé ce mois-ci. Les élections législatives, je pense que c'est possible. Les élections présidentielles, je trouve que c'est vraiment chercher les ennuis. Pour un pays qui a connu une si grande crise démocratique, qui n'a pas d'expérience en termes de rôle présidentiel, lui expliquer que quelqu'un peut perdre les élections à 49%, pour moi, c'est vraiment chercher à raviver la guerre. Je suis contre, personnellement. Mais en tout cas, un nouveau parlement, bien rafraîchi, dont la légitimité a été renouvelée, c'est quelque chose de souhaitable et logistiquement, c'est faisable.
Et c'est faisable, donc, une gouvernance politique, selon vous, en Libye aujourd'hui?
Oui, réélire le parlement, c'est tout à fait faisable. Oui.
Et donc, on imagine un partage du pouvoir, par exemple, selon un accord indirect entre Russie et Turquie, ça voudrait dire ça?
Justement, à ce propos, je continue à insister sur le fait que la Turquie ne s'y retrouve pas pour l'instant. Elle a réussi son challenge militaire, mais elle y est allée surtout pour des raisons économiques et elle n'est pas rentrée dans son argent. Donc ça peut déclencher une nouvelle guerre vers le sud ou vers l'est. Parce que pour l'instant, la seule zone que la Turquie maîtrise, plus ou moins, ne comporte pas de pétrole. Donc elle a aucun contrôle sur la richesse du pétrole. C'est la Russie qui s'en sort pour l'instant. Donc il y a un déséquilibre que je tiens à mettre en emphase parce que ça pourrait créer de mauvaises surprises. Une ressuscitation du conflit simplement parce que la Turquie n'est pas retombée sur ses pattes.
Ah, évidemment, une entente nécessaire entre les grandes puissances et notamment une entente économique à propos de ce conflit libyen. Merci beaucoup, Jalel Archaoui, chercheur à l'Institut des Relations Internationales de Klingendael aux Pays-Bas. C'est déjà l'heure de la fin de ce décryptage. Vous pouvez le écoutez évidemment sur notre site internet rfi.fr, le podcaster également. Merci à Eleonore Krenik à la préparation de ce décryptage. Claude Battista à la réalisation. Merci à la documentation et à la sonothèque de RFI pour les petits extraits sonores. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans une poignée de secondes, c'est Guillaume Nodin, le débat du jour.